Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La cour des miracles. Radio PFM.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
99.9.
La cour des miracles.
La cour des miracles.
La Cour des Miracles, émission de radio PFM 99.9.9.
La Cour des Miracles.
Yes.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
La Cour des Miracles.
Yes, bienvenue à la Cour des Miracles sur Radio PFM 99.9. La Cour des Miracles, c'est votre dernière agora de l'underground hip-hop, dub, électro. Un peu tout ça, ça déchire pas mal. Mais aujourd'hui, tiens, on va faire une spéciale, et pas des moindres, on va faire une spéciale jeux vidéo. Et en plus, on est en public. Salut, salut à vous tous, ça va? Ça va les gars?
Salut à vous, merci.
Salut à la technique, c'est moi, c'est Drunken Monkey. Je suis pas tout seul, il y a Bud qui est là.
Bonsoir.
Ça va Bud? Bud Spencer, hein, comme on l'appelle dans le milieu. Et je suis aussi avec Charlie Kojima. Salut à toi Charlie.
J'allais faire un accent assez douteux, mais je vais rester sur un bonjour traditionnel.
D'accord, tu peux prendre un accent quand tu veux dans la Cour des Miracles.
Bah, on se fait une spéciale accent, je pense, la semaine prochaine.
Une spéciale accent? Non, pas forcément, parce que là, on arrive à la fin de la saison quand
c'est
même.
La dernière de la saison, malheureusement.
Alors, pas forcément, on verra. En fait, il n'y a pas vraiment de saison, tu sais, nous, on est hors saison, hors sol.
C'est vrai, parce qu'il y a combien d'émissions à la Cour des Miracles?
Là, on est à 236, 237e.
Ouais, c'est pour ça qu'on fait des saisons, pour pas compter tous les.
Ça fait bientôt 13 ans qu'on est à la Cour des Miracles. Et puis en plus, on vous aura préparé un petit. Un nouveau générique hein, pour.
Ah oui, la rentrée.
La rentrée prochaine.
Donc il y a des saisons.
Il y a des saisons, mais bon.
Je trouve que le millésimé 2006 n'était pas la même que 2012, par exemple, tu vois.
Bah en 2006, on n'existait pas encore, en fait.
C'était pour ça, au sein de la Cour des Miracles.
Tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure? On va faire une spéciale jeu vidéo. Hein, voilà. Pourquoi jeux vidéo? Parce que bah, vous me l'avez demandé, chers auditeurs. Mais pas que, on a reçu des lettres sur papier libre demandaient, c'est vrai. Les jeux vidéo, vous en parlez pas assez. Les nouvelles technologies, etc. etc. Donc,
la chronique de Pascal Pro, dont tout le monde se souvient, qui avait demandé explicitement.
Ouais, alors Pascal ne sera pas là ce soir, malheureusement. Mais ce soir, il y aura du CNews dans ce qu'on passera. Ouais, vous allez voir. Donc, bah, on va vous parler de jeux vidéo en grande partie, voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu, toi, t'as prévu quoi, toi, pour cette spéciale jeux vidéo, cette spéciale JV?
Un petit quiz sur les jeux vidéo des années 90 jusqu'à 2000. Voilà, du rétro gaming, des OST. Pour savoir si la musique et les jeux vidéo ont un lien.
D'accord. Et toi, Charlie, toi, t'as prévu quoi?
Moi, j'adore. Enfin, y a des musiques de jeux vidéo qui sont emblématiques. Il y en a un milliard. Je pense que dans notre enfance, on a tous une ou deux pistes.
Pas du tout.
Pas du tout. qui nous habitent encore aujourd'hui. Moi, j'en ai plein. Et du coup, j'ai prévu 4-5 sons issus de jeux vidéo divers et variés.
D'accord. Plutôt musique, toi?
Ah bien sûr, bah c'est le thème de l'émission.
Ouais, bah moi j'ai pris des petits témoignages que j'ai trouvé un peu partout sur internet, hein, souvent, etc. Tiens, on va commencer le jeu vidéo Kezako. Tiens, j'ai trouvé ça sur la chaîne YouTube Info et Mytho, c'est un jour, une info.
Qui a inventé les jeux de société?
On commence avec les jeux de société.
On croyait qu'ils avaient été inventés par les soldats grecs pendant la guerre de Troie, vers 1250 avant Jésus-Christ. Erreur. En fait, leur origine est bien plus ancienne. Elle remonte à la fin de la préhistoire, il y a au moins 5000 ans. Et quels étaient les tout premiers jeux de société? Eh bien, tu en connais déjà un. Celui qui consiste à cacher sa main dans son dos et à faire deviner un nombre de doigts. Des jeux de hasard pouvaient également se jouer avec des coquillages ou des bâtonnets et des cases creusées dans le sol. Les plus vieux plateaux de jeux connus viennent d'Égypte et datent de 3000 avant Jésus-Christ. Ils ressemblent à un jeu de loi avec des pions en pierre, en bois ou en os. À l'époque, on les considérait comme des objets religieux, car on pensait que le hasard était décidé par les divinités. D'ailleurs, les jeux étaient aussi utilisés pour prédire l'avenir et accompagner les morts vers l'au-delà. Au cours de l'histoire, chaque civilisation a imaginé, enrichi, renouvelé différents jeux de société pour les rendre plus divertissants. Par exemple, les dés viennent d'Inde, les jeux de stratégie de Grèce et les cartes de Chine.
Qui a inventé les jeux vidéo? C'est Ralph Baer. En travaillant sur des radars militaires, cet ingénieur a eu l'idée géniale d'utiliser cette technologie pour jouer. En 1972, il sort la première console de jeux vidéo. Elle s'appelle l'Odyssée et contient un jeu de tennis hyper simple. Le jeu vidéo est né. Très vite, l'entreprise Atari sent la bonne affaire et copie l'idée du jeu de tennis avec le jeu Pong, le premier succès commercial. Que sont devenues ces consoles de jeux? Elles ne sont plus vendues. En 1983, Nintendo, une entreprise japonaise qui ne produisait auparavant que des cartes à jouer, lance sa console. Cette console, la NES, écrase toute la concurrence au Japon puis dans le monde. Quelques années après, Sega se lance aussi avec succès. Durant une dizaine d'années, Mario et Sonic se battent pour ravir le cœur des joueurs. Mais c'est sans compter l'arrivée de plus gros concurrents. Sony et sa PlayStation ont un succès fou en 1994. La 3D arrive dans les jeux vidéo, ainsi que des aventures plus adultes et parfois plus sombres. Car les joueurs ont grandi. Ils ont plus d'argent à consacrer aux jeux vidéo. Cela intéresse alors une grande marque de logiciels, Microsoft, qui lance sa console, la Xbox, en 2001. Aujourd'hui, les joueurs ont en moyenne 35 ans et c'est l'un des premiers loisirs en France. Le jeu vidéo est partout, sur console et ordinateur évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, tablettes et téléphones. En 2015, sort un casque de réalité virtuelle qui plonge le joueur dans l'univers du jeu, peut-être la prochaine évolution du jeu vidéo.
Ouais, voilà. Moi, ma question, c'est aussi, vous, en tant que joueur, c'est quoi vos premiers souvenirs de jeux vidéo? Tiens, je vous pose la question comme ça, donc je vous laisse un peu réfléchir. Moi, je me souviens, les toutes premières fois, c'était dans le village où est-ce que j'habitais, en fait. Il y avait justement une sorte de... Alors, je sais pas si c'était la Odyssée, comme ce que disait la dame avec le premier Pong qui était sorti, mais c'était un jeu avec déjà un mini joystick. Ou est-ce qu'on pouvait jouer à un Pong en... Donc on était sur de la 2D, hein, tout simplement, monochrome, où on était sur un carré qui passait d'un côté à un autre. Il y avait déjà du scoring, donc ça aussi, ça c'était une évolution à l'époque, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas les scores qui étaient affichés, hein, sur les premiers jeux. Et moi, je me souviens qu'il y avait déjà les scores, on pouvait déjà commencer à être dans un certain challenge par rapport à ce jeu. Toi, Bud, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeux vidéo?
Alors, les premiers souvenirs de vue et d'existence, c'était, je pense, que dans les bandes d'arcade qu'on pouvait trouver dans les bars ou autres à l'époque, ouais. Qui étaient beaucoup sur un Street Fighter ou autre dans les consoles.
Mais après, c'est déjà un peu plus vieux, ça, ouais, Street non. Fighter. Hein.
Mais non, mais même quand t'étais plus jeune, ça traînait toujours. Je veux dire, je sais plus vraiment ce qu'il y avait comme jeu à côté des flippers, tout ça. Mais je pense que ma première expérience de manette que je me souviens, c'était à Noël de je sais plus quelle année, la Sega, pour moi et ma sœur.
Master System,
c'est ouais, ça, voilà. Avec ça. Le Alex Kidd intégré, et puis évidemment, ce bon vieux... Ah, c'était déjà quoi Megaman. C'était Megaman, je sais plus lequel, mais le 3 peut-être. Mais,
ou peut-être le 1, tout simplement.
Je sais plus vraiment lequel c'était de Megaman, mais voilà quoi.
Parce que Master System, là on remonte quand même à 1989, quelque chose comme ça à peu près, hein, je crois, Master System.
Alors, ça doit être Sega 2, hein, parce que non, sinon j'avais 3 ans, c'est ouais, beaucoup plus vieux. Que j'avais 6-7 ans.
Après il y a eu la Master System 2, ouais, qui est un peu sortie, etc. Ouais,
non mais c'est celle-là où il y avait justement Alex Kidd intégré, Kidd, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Tu mettais sans cartouche.
Je pense que c'est aussi vieux que ça, effectivement, mais après à l'époque on achetait moins aussi, et du coup t'as beaucoup de consoles qui traînaient.
Les consoles en Europe sont arrivées quelques années après, vrai, ouais, par rapport aux versions nippones, aux versions, ouais, japonaises.
Mais surtout que moi, bah, tu nous disais ça, mais l'étonnement, on était vraiment des gamins, on apprenait le jeu, et là, on s'est dit, bon, on va appuyer sur play sans mettre le jeu, et quoi, il y a un autre jeu dedans, sans mettre de cartouche.
Ouais.
C'était genre, ouais.
Ouais, genre, ouais, t'avais le droit à un jeu gratuit, c'était ouf.
C'était genre, waouh, un nouveau monde, un nouveau truc, t'apprends des trucs, puis bam, les combats de boss qui étaient avec des Shifumi, quoi.
Toi, Charlie, toi, c'est quoi ta première, ton premier souvenir, ta première expérience de jeu vidéo ludique?
Bah, c'est assez difficile à dire.
C'est hyper dur à dire.
Il y a deux trucs, même trois en réalité. Alors déjà, j'avais à l'époque, ma mère voulait pas m'acheter de Game Boy, parce que moi, je suis un peu plus jeune que vous.
Ouais.
Je voulais pas m'acheter de Game Boy.
Il faut le savoir.
C'est vrai que t'as 12 ans cette année, Charlie. Ouais.
C'est vrai. Et un peu de poil au menton quand tu fais le reste. Et du coup, j'avais eu des jeux électroniques. Ou est-ce que t'es genre, tu sais, les trucs en 2D
des sortes de Game and
Watch. Game and Watch.
Oui, exactement. Oui, t'es juste un mec où genre il y a des poissons qui tombent du ciel.
Ouais, c'était super bien.
J'avais ça aussi.
C'était,
ouais.
C'était fascinant. Du coup, quand tu demandes Pokémon et que tu reçois ça à Noël, autant dire que t'as un peu envie de te défenestrer à 6 ans déjà.
Bah, surtout que là, c'était acheté dans une brocante. Autant nous les acheter dans les magasins, les Game and Watch. Mais ouais. Toi, à ce niveau-là, à cet âge-là,
j'ai aussi le souvenir de. Alors toi, tu parlais de Sega, mais ouais, mon père avait chez lui. Un jeu paramilitaire, genre un pré-Call of Duty absolument dégueulasse où tu bombardes l'Irak avec un hélicoptère. Comment il s'appelle ce
jeu ? Desert Strike.
Absolument.
Desert Strike, ils l'ont sorti sur Mega Drive à la base. Ouais. Ils ont fait après une adaptation sur Super Nintendo, mais à la base, c'était vraiment sur Mega Drive et sur PC.
Qui est une forme de racisme assez moderne, mais dans les années 90, d'aller bombarder des mosquées et compagnie. C'était assez étonnant.
Bah, tu sentais déjà que l'armée américaine avait mis des sous dans ce projet, en fait, pour évidemment.
Il y avait une idée commune derrière tout ça, je
pense. Ouais, très suspect. Et puis, si on parle de vrai grand souvenir de jeu vidéo, première fois où j'ai vraiment. Une expérience un peu transcendantale, c'est Ocarina of Time, je pense, comme tout le monde à l'époque. T'as 6 ans, tu prends
sur ça. Nintendo 64.
Ouais, et tu fais que de balader, écouter les zik, t'as un cheval, machin. On avait une cartouche qui avait déjà une sauvegarde faite, parce qu'on l'avait acheté en brocante.
Ouais.
Et donc en fait, on pouvait juste se balader à l'infini avec mes sœurs, et c'est tout ce qu'on faisait. Et on se faisait peur à aller dans des donjons un peu craignos, à se balader.
Alors moi,
à
je suis pas d'accord, parce qu'on est un peu plus vieux. Moi, je pense que c'est les RPG sur Super Nintendo. Premier grosse claque, les Final Fantasy, les Tell-Off et tout, les Chrono Trigger, même avant Ocarina of Time, t'es déjà inspiré dans un jeu de fou, quoi,
Après, c'est plus complexe.
Ouais, mais là, par contre, Ocarina of Time, c'est à 3D. Ça, c'est à 3D, c'est vrai que c'est le premier 3D,
L'exploration est vachement engageante.
Dès la 64, ouais, il y a un délire de la 3D, là, ça a bien progressé.
Ouais, Nintendo 64, bon, ça n'avait pas été la console qui. C'est une console qui a vraiment.
Mais qui a fait le pas, en fait. Qui a osé faire le pas, en fait.
Ouais. En fait, elle ne s'est pas super bien vendue par rapport à d'autres consoles. Évidemment, elle s'est mieux vendue que, je pense, la Sega Saturn ou ces consoles-là à l'époque. Mais cette plateforme, à part évidemment le fameux Mario 64, hein, qui a une hype de ouf et qui continue.
Qui est vendu dans des packs, c'est pour ça qu'il y a
même, il continue à être joué et à être rejoué en speedrun, hein, ce qu'on appelle les speedruns. Voilà, c'est vrai que Mario 64, par exemple, pour ça, c'est un jeu qui est intemporel.
Il est encore modé.
Mais il y avait quand même des bonnes bouses hein, sur Nintendo 64. Les Turok, etc. C'était bien de la merde.
C'était pas si mal. Hein. En fait, quand tu regardes le 64, t'avais quoi? T'avais 5 jeux, quoi, que tout le monde avait. Et après, t'avais 90% du catalogue.
C'est juste parce que Turok, il sortait du lot. Mais en fin de compte, comparé à un Duke Nukem sur PlayStation, Turok, il pue du cul.
Ah oui, c'est
comparé
clair.
À un Quake.
J'avais Quake 2 sur Nintendo 64.
Turok, c'est parce que c'est un des seuls jeux qui était sur 64 qui ressemblait
en fait,
à ce jeu-là.
Pour nos 6 auditeurs qui nous écoutent, si vous avez moins de 30 ans, faut voir la gueule de la manette de 64 surtout.
Moi, je la trouvais géniale.
Ah ouais,
mais personne n'a aimé.
Il faut tenir en fait avec la main par-dessus le stick. Donc tu tiens dans ta main droite toute la manette et après t'as la stick par-dessus la main ou
t'étais déjà sur t'étais déjà sur la version alpha de la manette GameCube. Tu sais, en fait, à droite t'avais tes boutons jaunes en fait pour changer de caméra. T'avais juste deux boutons parce que c'est vrai que Nintendo est très adorateur d'avoir deux boutons.
Mais c'est eux qui ont inventé la croix directionnelle aussi déjà.
Ouais, exactement, c'est Kanpei Yuto, un truc comme ça, justement, on va en parler
un
petit peu après.
C'était beaucoup le joystick.
La croix directionnelle, c'est lui qui l'a inventé. Après, le joystick.
Non, mais je veux dire, mais avant,
toutes
les manettes étaient à base de joystick. C'était vraiment.
Mais c'est pas Nintendo, en fait, qui a inventé le joystick.
Non, j'ai jamais dit ça.
C'est la Sega Saturn.
Peut-être.
La première manette sur Sega Saturn par rapport au jeu Knight. C'était un jeu où est-ce qu'on pouvait voler. Et en fait, c'est sur Sega Saturn, c'était eux qui ont sorti la première manette avec joystick analogique, ce qu'on appelle un joystick analogique.
Oui. Parce que, et en plus, sur Bandai Arcade, t'avais déjà des sticks plus ou moins à l'époque.
Oui, évidemment, mais c'était un...
Mais ouais, c'est 8 directions ou...
Oui, mais c'était pas sur une manette en tant que telle. Ce que je veux dire, c'était pas domestiqué.
Ouais.
C'était pas... t'étais chez toi à la maison avec une manette moderne. Ouais. Tu jouais sur une borne d'arcade, donc t'avais ton joystick.
T'avais le cube avec le stick.
Voilà. Ouais.
Mais c'est quand même marrant de voir quand les concepteurs ont changé d'avis. C'est au début qu'ils pensaient vraiment que c'était avec la pomme de la main qu'on devait diriger. Maintenant, c'est devenu avec le pouce. L'évolution de, bah, du gameplay entre la manette en même temps et aussi les...
Tout ce qui est moteur graphique et tout. Depuis que Sony a, depuis la PS2, en fait, tout le monde fait des manettes de PS2, plus ou moins, quoi. Genre, c'est la manette parfaite, quoi.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. La manette PlayStation n'est pas la manette la plus parfaite.
Non, mais je veux dire, avoir deux sticks sur chaque
pouces. C'est le Kinect, le meilleur. C'est le doigt
pour avoir des gâchettes, etc., etc. Je veux dire, la manette Sony avec les deux sticks, les index et les majeurs sur les gâchettes et le pouce pour utiliser croix, rond, triangle, carré. C'est un peu ce qui est devenu la norme, quoi. Et la croix directionnelle à gauche.
Ouais, évidemment, c'est...
Ouais. Fait ça maintenant.
Après, il y avait Super NES aussi qui faisait ça déjà avant.
Non,
oui, plus ou moins, c'est latéralisé de la même manière.
Oui, ouais. Oui, mais il n'y avait pas de stick analogique.
Oui,
pour,
ouais, c'est ça.
C'est vrai que c'est latéralisé de la même manière.
En même temps, à l'époque, il n'y avait pas encore la 3D moderne qui était arrivée. Évidemment, sur la Super Nintendo, à l'époque, il y avait déjà de la 3D. Hein. C'était de la 3D isométrique. Après, il y a eu de la 3D voxel qui a été mise en place. Moi, je pense tout de suite à Star Fox sur Super Nintendo avec une carte accélératrice qu'ils avaient mis dans la petite cartouche pour montrer que c'était un jeu un peu surpuissant. Mais ouais, après c'est vrai que la vraie 3D moderne telle qu'on la connaît, c'est arrivé avec les consoles 32 bits. Donc la Sega Saturn et évidemment le Terminator qui était la PlayStation première du nom. C'était ça, je crois.
La Saturn, je me rappelle pas. C'est pas celle qui s'est vautrée. La Dreamcast, elle s'est vautrée. Non, la Dreamcast a fonctionné.
Non,
la Saturn,
c'est
vautrée.
Non, la Dreamcast s'est vautrée et justement.
À cause de Shenmue en particulier.
Bah non, mais la Dreamcast, à cause de la Dreamcast, évidemment, Sega a arrêté de construire des consoles de jeux vidéo et juste a fait de la réalisation et de l'édition de jeux.
C'est pas justement un problème de Shenmue.
Mais avant cette Dreamcast, évidemment, en 93-94, il y a eu la Sega Saturn. Qui était sorti avant la PlayStation, qui avait commencé à bien se vendre, sauf qu'évidemment, PlayStation qui arrive,
c'est ça, ils ont compris le marché, nouvelle plateforme,
nouvelle architecture à l'intérieur de la console, beaucoup plus facile à programmer.
Bah, les messages, ouais, même les messages publicitaires,
messages publicitaires qui étaient révolutionnaires.
C'était déjà en Europe, donc le marché l'ont pris, en fait, tout simplement, c'est ça. Le Japon, ils arrivaient, mais ils avaient du mal déjà à retransmettre leurs infos. C'est d'autres équipes qui, donc du coup, ils avaient du mal à faire. Sony est arrivé, il a tout écrasé. Et Dreamcast, en fait, c'est pas Shenmue qui les a tués parce que même limite avec le côté arcade comme ils faisaient, j'ai cette radio et tout, ils ont pu faire des tueries mais en fait PlayStation il leur a roulé dessus sur tout le monde en fait.
C'est un sujet super intéressant parce que pour les gens qui jouent aujourd'hui, faut se rappeler qu'à l'époque en fait il y avait genre un truc un peu imperméable entre le Japon, les États-Unis et l'Europe, où en France moi quand j'étais gamin on jouait beaucoup aux jeux Infogrames Atari parce que c'était des jeux français, donc tu jouais à des jeux de BD françaises.
Cocorico, mais pas du tout. Ça c'est les genres de parents qui interdisent aux enfants de regarder des mangas.
Tu jouais beaucoup à ces trucs là, tu jouais beaucoup à des jeux américains. C'est vrai que les jeux japonais, il y avait une imperméabilité du coup qui fait que t'en avais beaucoup moins en Europe.
Bah, évidemment,
aujourd'hui tout est globalisé.
Ouais, mais c'est vrai que pour être distribué à l'époque, c'était pas forcément évident parce que pour être distribué, il fallait avoir tes usines. Il fallait que ça passe par Bandai, par Namco, par Konami. Or maintenant, Internet a tout remis à zéro en fait, table rase au niveau de la distribution du jeu vidéo ludique. Donc moi je pense que c'est ça en fait qui est rentré en compte.
Ce qui est bien aussi, c'est que ça a permis aussi parce qu'à l'époque sur SNES notamment t'avais des jeux pirates, donc c'est des mecs qui codaient leurs propres jeux mais ils avaient pas vraiment l'autorisation officielle, donc c'était des cartouches un peu chelou, puis c'était des jeux de merde bien souvent. Mais qu'aujourd'hui avec cette globalisation, il y a les jeux indépendants depuis 20 ans maintenant, depuis 2006-2007 à peu près. Super Meat Boy, c'était le premier gros jeu indépendant je pense en 2008.
Ah, j'adore Super Meat Boy.
C'est génial, extrêmement dur mais super. Et ouais, ça a vraiment tout changé en fait.
Ouais.
Le fait d'avoir vraiment cette imperméabilité qui a sauté.
Bon, je vois que vous.
Ouais, pardon.
Ouais, non, mais je vois que vous y connaissez pas mal en jeux vidéo. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'émission. Je vais vous passer justement, des gens qui s'y connaissent, mais encore mieux que nous.
Non.
Ouais, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des mecs de RTL. J'ai pris des mecs de l'émission de Cyril Hanouna. J'ai pris des mecs de CNews. J'ai pris des mecs de Arte, de Lina. Vous allez voir.
Le gratin dauphinois
du jeu vidéo.
Allez, c'est le début de l'histoire de Gunpei Yokoi. Il devient, au bout de 2 ans, le responsable de la recherche et développement. Et il va avoir une idée absolument géniale en 1970. C'est celle de créer les bornes d'arcade. On parlait tout à l'heure des jeux de notre enfance, etc. Je pense que tous les enfants des années 80 ont en mémoire ces espèces de bornes d'arcade dans des salles entières où on allait jouer, où on c'était une sorte de flipper électronique. Ça, c'est le début de l'histoire du jeu vidéo pour Nintendo. 1970, 1972, il lance un produit qui s'appelle Odyssey. Et Odyssey, c'est quoi ? C'est la première console de jeu de salon. C'est Nintendo qui la lance. 1979, il se dit, c'est marrant, mais on pourrait peut-être faire des jeux de poche, des consoles de poche. Donc, il regarde la technologie des écrans à cristaux liquides et il invente Game and Watch. C'est comme ça que ça s'appelle. Bah, nous, on va connaître ça sous le nom de Game Boy.
Les élèves sont sans arrêt sur leurs jeux vidéo, en train de jouer à des jeux extrêmement violents. Et quand ils se retrouvent dans la vie réelle, ils ne savent plus s'ils sont encore dans le jeu ou s'ils sont encore dans la vie réelle.
85% des jeunes joueraient au moins une fois par semaine sur leur console. Certains passent plus de 5 heures par jour collés à l'écran. Les garçons sont les plus touchés par cette addiction et les premiers séduits par des jeux violents, déconseillés aux mineurs. Pour plusieurs adolescents, l'usage abusif des manettes peut s'avérer grave et entraîner un état dépressif. Selon l'étude menée par l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, un enfant a plus de chances de rencontrer un problème d'addiction s'il joue seul ou en ligne, ou encore s'il possède sa propre console de jeu.
La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents.
C'est un débat vieux comme le monde que vient de relancer la première dame de France, Brigitte Macron, qui accuse les jeux vidéo d'être trop violents et addictifs pour les plus jeunes. Lors d'un passage à la maison des adolescents de la ville de Blois, la première dame a déploré l'addiction aux jeux vidéo, des joueurs qui en France seraient au nombre de 37 millions. Brigitte Macron s'est surtout attaquée à Fortnite, jeu de combat particulièrement populaire chez les jeunes. Dans le monde, plus de 350 millions de joueurs ont été recensés.
Fortnite, c'est terrible. Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent ?
Selon l'OMS, seulement 2 à 3% des joueurs seraient compulsifs et leur addiction pourrait alors s'apparenter à une maladie mentale.
Magali Berda.
Moi, je suis maman. Excusez-moi, j'ai une ado à la maison et ça me gêne vraiment d'être enfermée dans une chambre. Et je trouve au contraire que ça coupe de l'extérieur.
Oui, mais c'est
parce que les jeux vidéo de maintenant ne sont pas les mêmes. Vous parlez tous des jeux vidéo d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est plus les mêmes.
Ah, non.
Les jeux, plus sur Pac-Man et compagnie.
Il y a toujours
Mario. On est sur des jeux de guerre toute la journée.
Ils sont très.
Et je suis désolée, c'est hyper dangereux.
Là, c'est le rôle. Il y a un vrai problème d'éducation en fait.
Ici, ils sont côte à côte, mais ils ne communiquent pas entre eux. Ils ne s'adressent qu'à leur écran.
Alors oui, cette image est pathétique. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. Ils ont des têtes d'abrutis. Et chacun est dans une solitude absolue.
Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
Mais ça s'écrit comment ?
Cette histoire maintenant qui suscite une vive émotion en Grande-Bretagne. Un père de famille vient de lancer une campagne d'avertissement face au danger des jeux vidéo.
Crise cardiaque, mort par épuisement, démence, les faits divers sont limités mais réguliers dans le monde. Certains pays, asiatiques notamment, ont même mis en place des cures de désintoxication pour joueurs.
D'un monde à l'autre, les jeux vidéo peuvent vous mener très loin. Parfois, jusqu'à l'intoxication. Beaucoup d'enfants avouent ne plus savoir jouer à autre chose qu'aux jeux vidéo.
Alors, si certains adultes s'inquiètent autant de ce phénomène, ne serait-ce pas en réalité de peur d'être surpassés par leurs propres enfants ?
La cour des miracles.
Manifestation, grève, 49.3, terrorisme.
Répète après moi. Il y a 1000 fois pire que ça.
Quoi, des jeux pourris ?
Il y a 1000 fois pire que ça. Je parle des trucs dans la vie.
Il y a 1000 fois pire que ça. La crise économique.
Il y a 1000 fois pire que ça.
La famine en Afrique.
c'est qu'un jeu pourri. Y a bien pire dans la vie, la guerre au Mali, la Seine-Saint-Denis. Y a mille fois pire que ça.
Qu'est-ce que vous foutez chez moi?
Bah on squatte ta vidéo.
Vous squattez ma vidéo?
On sort en frigo.
Y a mille fois pire que ça. À la bombe atomique. Y a mille fois pire que ça. Y a ton générique.
Ces mots signifient qu'il y a bien pire dans la vie. Merci les amis. Sortez d'ici.
Y a mille fois pire que ça.
Précisément. Vous vouliez faire des jeux par passion, être fier de vos créations. Mais bête comme vous êtes, faites attention. Con et passion font compassion. On est là pour se faire du pognon, même si ça implique de mal faire. Nous parlons de droit d'adaptation. Donne-moi ce clavier, laisse-moi faire. Et cette souffrance des jeux à licence, vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes.
Infogrames. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogrames.
Yes, voilà, c'était le JDG, le joueur du grenier, bien connu sur Internet pour illustrer un petit peu les jeux de merde, etc. Et voilà, les jeux qui rendent fou, évidemment. Merci Alina, merci à Eindhoven, entre autres, c'est ça, Eindhoven, le philosophe.
Raphaël Eindhoven, ouais, en off, j'étais en train de dire que je détestais absolument ce mec. Ouais, je suis désolé, un peu de négativité dans cette émission qui, pourtant, transpire la bonne humeur.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Voilà, faudrait qu'on fasse une émission spéciale Eindhoven où est-ce qu'on est extrêmement verbeux et condescendant et qu'on comprend rien à rien surtout.
C'est ce la plupart des émissions, on comprend rien à rien. Nos auditeurs nous le disent souvent, on n'a pas trop compris la chronique de lui, la chronique d'un tel, votre thématique. Donc voilà. Aujourd'hui, notre thématique, c'est les jeux vidéo. Et pour ça, tiens, on continue. Toi, Bud, tu nous as préparé un quiz. Attends, parce que t'as changé de micro, donc évidemment, hop, je monte ton micro.
Hein, c'est parce que pour que Charlie ne voit pas les réponses.
Ah oui, d'accord, tu t'es mis à l'autre bout de la pièce.
Ah oui, oui, okay. Oui, avec mes classeurs de chaque côté, vous ne copierez pas.
D'accord. Ok, en quoi ça consiste? Comment on va faire?
Alors, on va s'écouter des petits passages de musique tirés des jeux vidéo.
Ouais.
Donc en version originale, qu'on peut trouver dans les cartouches, évidemment.
Ouais.
Des OST. Et du coup, il faudra deviner le titre du jeu.
D'accord, on va faire des équipes alors, genre, alors il y a Charlie Kojima, équipe Kojima, c'est ça? Moi je suis équipe quoi, moi
Je pense qu'il n'y a pas d'équipe.
Pourquoi Kojima? Je trouve ça un peu... est-ce que c'est un reproche un peu dissimulé, comme quoi je serais extrêmement prétentieux?
La team Charlie et la team Monkey, c'est très très bien comme ça.
Et la team, Monkey Island.
Si t'es japonais, je préfère être la team Miyazaki, parce que je suis très prétentieux, alors, effectivement, et je joue au Dark Souls, bien sûr.
Team Miyazaki et team Monkey Island. Donc,
alors,
voilà.
Déjà, je vous ai pas demandé de choisir des noms d'équipe.
Oh.
C'est bien, rabat-joie et tout. Bon,
choisis ton axe.
Oh là là. Ok, d'accord. Tu me le dis, vu que je suis à la technique, tu lèves la main, et puis je balance. Aller, d'accord, ok, d'accord, ça marche.
On est parti sur une vingtaine de sons. Celui-là, il est un peu compliqué.
C'est un RPG?
C'est un FF?
Oh oui! De toute façon, okay. Vous allez voir, il y a des
est-ce
styles de sons qui ont
voulu. C'est le 2. Moi, j'en ai joué à aucun, je viens de dire.
C'est le 7?
Ah oui!
Final Fantasy 7?
Carrément, carrément. Alors, Final Fantasy 7, on a un demi-point, et il faut trouver le thème. Il est assez connu.
Ouais. Bah, c'est Sephiroth Theme?
Et voilà, Sephiroth Theme.
Oh là là! La chatte!
Oh là là. Ah non, pas la chatte, c'était un super combat et tout. Voilà. Si j'avais mis juste le générique de début, tout le monde aurait su ça. Voilà. Donc, oui, un jeu qui est sorti du coup. Qui est sorti en 97.
Ouais.
Alors, direction de Yoshinori PlayStation Kitase, qui a...
Ça a vendu pas mal. Ça a vendu pas mal de PlayStation.
Dernièrement, le remake a des premiers jeux en 4 CD. Hein, on s'y croyait. Franchement, pour
4 CD, c'est vrai. Donc il y avait 700. Attends, il y avait 700 MMO. Donc en fait, le jeu il faisait 3,4 Go.
Alors ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était tout nouveau de passer par plusieurs formats. Tu voyais le truc.
Non, 2,4 Go, pardon.
C'était voilà quoi. Mais bon, voilà. On passe à l'extrait suivant, s'il vous plaît.
Yes.
Ah.
C'est Doom.
Ah non, presque pas. ID Software. Oui, voilà, c'est Quake 1.
C'est Quake ?
Ouais, Quake. D'accord. Sorti en 96. Software, John Carmack et puis John Romero.
On le fait un peu écouter.
Oui, évidemment. Un partout.
Ouais, ok, vas-y, ouais, ça marche. Donc Quake, un point partout, ouais, voilà. Ouais, moi j'ai pas eu, ouais.
Très rapidement, pour les gens qui suivent un peu, il faut absolument écouter la BO des deux derniers Doom, qui a été écrite par Mick
Doom
Gordon.
Doom Eternal.
Ouais, mm-hmm. Mick Gordon, qui est un genre de métal industriel, et puis c'est putain de génial.
Oui, le jeu est complètement infernal.
Il a fait ça tout seul.
Il est infernal, ce jeu.
Le jeu est excellent, et le mec a fait ça tout seul. Il a tout orchestré, arrangé lui-même, tout joué, etc.
C'est ça. Mick Gordon, façon, grand nom. Hein. Grand mais dommage qu'il n'a pas fait ça sur Mighty Doom. Mais ça,
c'est Mighty Doom, ah oui, le petit Doom trop mignon. Oui, c'est vrai. On continue ?
Allez, on partit, on est parti.
Un point partout.
Parce que c'est pas vraiment le thème générique.
C'est Ocarina of Time, non ?
Non, du tout. Là, sur ça, on va rentrer
un peu. C'est Zelda, c'est ça ?
C'est un jeu de rôle édité par Square qui est sorti le 11 mars 1995.
Chrono Trigger ?
C'est ça. C'est exactement ça. Avec
Chronos Trigger, ouais.
Lavos Theme, avec évidemment Akira Toriyama au scénario et au dessin.
Exactement. Akira Toriyama qui a fait tous les designs des Dragon Ball, évidemment.
Mitsuka. Et aussi Dr. Slump. Et.
Ouais, Dr. Slump.
Et Vigan aussi.
Du coup, j'étais pas si loin que Dragon Quest, parce qu'Akira Toriyama fait les dessins aussi.
Et il y a aussi justement un collaborateur de Dragon Quest aussi, donc c'était Yushiori, créateur de la série Dragon Quest. Vous avez fait Chrono Trigger ?
Non, je l'ai pas fait, ouais.
Je déteste les JRPG.
J'ai adoré. Surtout un gameplay très interactif avec les combos des personnages et tout, le délire du temps, de revenir. Moi j'ai beaucoup aimé Chrono Trigger.
C'est de l'action en temps réel ou c'est au tour par tour ?
C'est entre les deux. C'est assez difficile. Attendez, donc c'est le Active Time Battle, donc c'est rajoute du dynamique entre deux, donc tu peux agir pendant tes temps de chargement.
Ah oui, d'accord, c'était un peu l'évolution du RPG, du JRPG, donc le Japan RPG, en fait, ce qu'on appelle vraiment le tour par tour en tant que tel. Et là, ça commençait à devenir un peu de l'action RPG, tel qu'on peut le retrouver par exemple dans le dernier Final Fantasy XVI ou celui d'avant, etc.
Elden Ring, pour revenir sur Miyazaki.
Elden Ring aussi, ouais, voilà, très bon.
On passe au prochain, du coup.
Yes.
Celui-là, il est facile des données.
Allô.
Tire la première personne. Voilà.
Allô, Main Theme. Voilà, sorti sur Xbox.
Le 15 novembre 2001 aux États-Unis.
Ouais.
Et le 9 novembre 2005, Halo, considéré comme un succès mondial, mais pas considéré qui est un succès mondial. Oui. Donc voilà, tout le monde vous a tué là-dessus.
Ouais, c'est un peu le GoldenEye de la Xbox.
Oui, c'est un
de la deuxième génération 3D. Quoi.
Le délire du déjà multijoueur. Le fait de jouer sur les plateformes en net, en réseau, c'est un des premiers quoi.
Ouais, carrément, ouais.
C'était ça aussi. Hein.
Complètement, ouais, jouer sur console en réseau, c'était pas évident à l'époque. Ouais.
Non, il a marqué une ère et puis son délire, hein, voilà, il a su bien faire les choses. Ouais. Microsoft Game Studios, c'était sorti par publié par Microsoft Game Studios.
Moi j'ai adoré, hein. Moi je l'ai fumé. Hein. Halo 1, Halo 2, je les ai fumés à mort.
Chez des amis, parce que j'avais pas la Xbox, mais j'avais passé des bons moments.
Yes. Ouais, c'est vrai, non, ce jeu-là, ça a été aussi une petite révolution, en fait, hein, ouais. Au niveau de la 128 bits, parce que, au niveau du, tout simplement, en fait, pour un Doom-like, un first-person shooter, un FPS, il y avait un certain rythme à avoir, en fait, qu'il n'y avait pas, justement, forcément, dans le GoldenEye, hein, comme tu disais, Charlie. Là, on était vraiment sur un côté plus badass. Qu'on pouvait retrouver entre Duke Nukem, entre Quake, etc.
Il y avait le prix de véhicules. calculs, les prises
voilà,
de...
Voilà, mais aussi ce côté un peu stratégique sur
tes... Même l'univers, hein, les créatures, tout ça qui ouvre à un monde inconnu.
Ça fait combien de points alors là?
Alors vous êtes à 2-1.
2-1 Ça fait pas 2-2, non?
Non.
Chrono Trigger, non, ça fait 3...
Je crois que je me fais fumer, ouais.
Ouais, je crois...
Ah non, j'ai Final Fantasy 17, c'est toi.
Ouais, Chrono Trigger, c'est moi.
Quake.
Quoique, c'est lui.
Ouais, il a raison, 3, hein, effectivement.
Et Halo, c'est moi aussi.
Il y avait un Striker, c'est toi.
Ouais.
Halo, ça fait 3.
Et puis, bah, le prochain, en fait, là, c'est moi, tu vois.
3.
Ah, plus dur celui-là. Beaucoup plus dur.
Super Meat Ball ?
Non, du coup. Alors, je vais aider.
Final Fight ?
Sorti en Amérique du Nord, c'était un jeu de football.
Ah, c'est.
Super Soccer.
Édité par Nintendo.
C'est ISS.
Non. Il est
non,
sorti.
C'était Konami, j'ai connu.
Il est sorti en mai 2007. Attention, c'est une rareté.
Mario Soccer, non?
Ah, on y est presque. C'était Mario Strike Charged.
Ah bah attends, il avait peut-être qu'il.
Non, c'était
dire,
pas ça.
Non, parce qu'on a dit Mario Soccer, bah c'est évidemment, c'est ça. Tout le monde dit souvent Mario Soccer, mais non, évidemment. Cette petite partie du jeu de Mario qu'on connaît très peu, qui est sur le football, en fait, justement.
Bah, ils en ont sorti un dernièrement hein, sur,
ça,
la,
aussi,
sur la Switch.
Oui.
Voilà.
Et du coup, oui, intéressant comme gameplay pour un Mario avec Luigi, tous les personnages. Moi, j'avais joué un petit peu à l'époque et franchement, c'était bien.
D'accord, très bien.
Ah, celui-là,
ça, c'est DuckTales.
Oui,
c'est le thème de la Lune.
Un deuxième point. Ah voilà, deuxième point pour la Lune.
C'est joué sur Game Boy.
Deuxième point pour la Lune.
C'est le thème de la Lune, c'est un des cinq
titres.
Non, c'est quoi DuckTales ?
C'est le Picsou. C'est la bande à Picsou
sur Game Boy.
Oui, d'accord, oui.
La bande à Picsou sortie en 1989 sur Game Boy.
Le jeu était mortel.
Ouais.
Le jeu était mortel. Y compris sur Game Boy, ce qui est rare.
Pour avoir trouvé le nom du niveau, je donne 2 points à la team de Charlie. Donc nous sommes exactement à combien là ? 3.
Alors j'ai une team de 1 personne.
Oui, non, mais vous êtes à 3.
Alors, moi j'étais à 3, ouais, je crois.
Non, 3 à 4.
3 à 4.
C'est bien serré.
Ouais, c'est parce que c'est mon émission, donc je vois bien que tu me laisses
on
un
fera
peu d'avance.
Un sondage pour demander qui a quoi.
Ouais, c'est ça quoi.
Allez, le prochain, ça, c'est vraiment la rapidité.
Attends, je l'avance un petit peu, hein, évidemment. Allez, c'est reparti pour le prochain.
C'est MGS.
Ouais, bah oui, Metal Gear Solid de Hideo Kojima.
Oui, c'est
sorti
ça.
Sur PlayStation.
Mais trop tard. Il a dit.
MGS.
Mais ça veut rien dire MGS.
C'est Metal Gear Solid.
Mais non, ça veut dire.
Metal Gear Solid.
Man Square.
Communément abrégé MGS, est un jeu vidéo d'action infiltration produit et réalisé par Hideo Kojima, le fameux. Développé et édité par Konami et sorti en 98 sur PlayStation. On s'en souvient toujours de Solid Snake et
est-ce
tout.
Est-ce que le compositeur serait pas Harry Gregson Williams ou un truc comme ça?
Non, mais c'est bon, on n'en fait pas trop non plus.
Tout
hein.
Est là.
N'en fais pas trop non plus.
Le prochain est beaucoup plus dur. Le prochain est beaucoup plus dur. Donc là, on est à 4-4. Tout peut se jouer là sur ça. On va savoir qui est le meilleur.
Bah, on a encore 6 minutes devant nous hein, pour ta c'est chronique. Ça. Il y a encore du temps. Donc on va. Ah bah si, t'inquiète. Il y a le temps.
Le prochain est un peu plus dur.
Alex Kidd.
Et non.
Attends.
Je vous laisse un peu.
Frogger.
Non.
Doug.
Est-ce que c'est un jeu sorti ces 10 dernières années?
Non, pas du tout. C'est dans les 90-2000, hein, la plupart des jeux que je vais citer. Donc on est dans un jeu de course développé, édité par Godmaster, sorti en 91 sur NES. Le jeu est adopté à partir de 95 sur Amiga, CDI, OS Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy et Game Gear. Il était très dur celui-là et vous savez ce que c'était?
C'est le mais non, attends un petit peu, il nous donne des infos et puis ouais.
Jeu de bagnole, ça jamais
Ridge
été trop,
non
trop
non non truc. C'est pas un Ridge hein, parce que Ridge non. C'était PlayStation après on n'est pas sur
un jeu de course en 2D.
Bah oui, évidemment
l'ancêtre on va dire de Mario Kart.
C'est pas Street Racer?
Non.
Micro Machine.
C'était ça, Micro Machine. On est 5 à 4. Et attention, c'est la version Genesis parce qu'on soigne l'oreille de nos auditeurs. Donc on a mis du 32 bits.
Alors, toujours une bonne idée de faire des jeux de bagnole en vue du dessus, c'est vraiment super.
Ah, celui-là est un peu plus difficile. Mais on va reconnaître un petit peu le. Ça, c'était sur l'intro du jeu.
C'est Shinobi ?
Non.
il y avait des vocaux, déjà des voix vocales.
Ouais, vous allez voir, c'est, évident. C'est ça pour ça que j'ai mis cette étape. Déjà, c'est un des jeux que j'adore.
Ninja Gaiden ?
Non.
La vocale.
Ah, SF, Street Fighter ?
Non, même pas. Je vais être très très dur.
King of Fighters ?
Alors, un jeu de rôle développé par World Team, édité à Namco en 94, Super Famicom. Il y a eu le portage PlayStation, Game Boy Advance, PlayStation Portable, GameCube et plein d'autres.
Megaman ?
Non. C'est un des premiers de la série qui est, voilà, l'objectif matériel. Hein.
Kid Caméléon ? Kid Caméléon, non ?
Programmé par Yoshinaru Kantaga. Et c'était un jeu à l'époque innovant, toujours par Square Enix aussi. Et l'avantage, c'est que c'était du combat RPG, mais en temps réel.
D'accord.
Super NES.
Sur Super NES, Mario RPG ?
Et non, du tout, c'était... Ah,
je crois que je sais, mais, enfin je connais plus le nom, mais je crois que je vois des images. Perso, je vais donner ma langue au chat.
Ah, moi je sais pas, là, je t'avouerai.
C'était
là.
Une révolution, même pour vous dire, là, le ouais. Vocal qu'on peut trouver sur Super NES, là, quand
ah,
même.
Ah, la City Pop, sympa, là. Ouais.
Sur Super NES, hein, quand même.
Sur la Super vocale, NES là.
Ouais, bah ouais, parce que le vocal normalement c'était pas lié à ces consoles-là. Je sais pas. Vas-y.
C'était les Tale of Phantasia, le premier.
Attends, hop, ouais, j'avance.
Tale of, oui, un peu plus dur celui-là. Sorti en 95.
Ouais.
Oui.
J'avais un an. Même sûrement 4 mois, 4-5 mois, donc c'était un peu.
Allez, ouais. Le prochain, il est vraiment donné.
C'est GTA 5.
Eh oui!
Qui est le jeu le plus sucé, ressucé de tous les temps.
Quoi, c'est quoi ça, GTA 5.
Question, GTA 5.
C'est GTA 5,
oui.
Ça.
Ouais. Et j'ai une petite question pour vous. Quel est le jeu le plus ressucé de tous les temps? C'est Skyrim ou GTA 5? Parce que GTA 5, ça fait 10 ans quand même.
Ça veut dire que ressucé alors?
Bah les gens jouent encore dessus.
Ouais, et genre ils le ressortent sur chaque console. Ouais. Ils sont sortis sur PS3, PS4 et maintenant PS5. Ils ont fait des remakes et des remakes.
Pour moi, le jeu le plus ressucé, c'est Super Mario 64. Super Mario 64.
Non, mais il jamais ressorti. Non, il est jamais ressorti en version.
D'accord, mais il continue sur Twitch, par exemple. Ouais, sur Twitch, tu continues à avoir du
Super Mario.
Je veux dire, c'est pas la vache à lait. Je veux dire, le jeu qui est vraiment la vache à lait du studio, tu sais.
Et Dieu sait que Nintendo en a des vaches à lait. Hein. Ils en ont énormément.
Oh,
aussi,
ouais. Ils peuvent te sortir des trucs en carton, tu l'achètes.
Oui. Ouais, non, bah, je l'avais pas. Ouais. Donc ça fait un point en plus pour toi, monsieur Kojima.
Donc on est
enfin, monsieur Miyazaki.
On est 6. On est 6 à 4.
Ouais, j'aimerais bien. Moi, je te le dis direct, hein, bud. Hein, si la prochaine, je la trouve pas, l'année prochaine, la prochaine saison, tu seras plus là, hein, tout simplement. Tu sais,
alors,
derrière, ça se bat au portillon hein, pour venir ici.
Il y a des chances. Il y a des chances que la prochaine, tu trouves, mais elle est assez difficile. Donc, celui qui trouve celle-là, 2 points.
C'est une gamme, hein.
Non, c'est ça, attention, il faut toujours un peu de.
G7 Radio.
Non plus. C'est au Genesis.
Un Shinobi,
jeu type
Shinobi.
Beat'em all développé, édité par Sunsoft sur Mega Drive en 90.
Sunset Rider.
Il s'agit d'un. Attention, cette information peut être cruciale. Il s'agit d'un jeu basé sur un film de Tim Burton.
C'est Batman.
Beetlejuice.
Eh oui, c'était Batman sur Genesis. The Video Game, Batman The Video Game.
Adapté du film, je connais pas du tout.
Eh oui. Ah, c'est synthé sur la Genesis.
Allez, et puis on va s'en faire un dernier. On va s'en faire un dernier avant le son de Charlie. C'est un peu la Derdéder, celle qui va donner les 1000
points. Ah non, il y en a encore quelques-unes.
Bah, je sais bien, mais en fait, oui, là, pour arriver à la fin de l'émission, après, ça va être un peu plus dur, c'est pour ça.
Le dernier va peut-être pas du tout t'arranger, parce qu'on va dire que maintenant, l'issue du quiz est finie, parce que si tu réponds à celle-là, voilà. Encore qu'on va faire un jeu de rapidité, on va tout remettre sur celle-là. Le premier qui répond gagne la partie.
Je déteste les morceaux. On gagne quoi alors?
Je
on
sais, mais en même temps, on me pousse.
On gagne un bisou, on gagne quoi alors?
Une 8-6, Antoine.
D'accord.
Une 8-6.
Une très bonne 8-6 un peu tiède que je garde dans mon pantalon depuis voilà.
Allez, c'est parti.
Jeu vidéo. Développé par All Factory, Nintendo Game Boy en 92, le 27 avril
Kirby.
Au Japon.
Oui. Ouais, c'est ça.
Ah, Kirby Dream Land.
Kirby Dream Land, bah oui, sur Game Boy, ouais.
Je l'ai poncé ce jeu-là, je le speedrunné.
Qui est le jeu le plus facile du monde et qui est trop bien, malgré tout.
Yes, ouais, oh, tiens, je me suis trompé, j'ai appuyé sur un bouton en fait, voilà. Donc en fait là, ça tourne un peu en rond, excuse-moi. Hein. Ok, d'accord. Très
dommage.
Bien.
Sinon, il nous restait aussi du Super Mario 3 avec la musique du World Map.
Et en plus, en ce moment, je suis en train d'y jouer moi, Super Mario 3 sur Game Boy Advance SP. Parce que je me suis racheté une petite Advance SP en fait. Au moins comme ça, bah quand je m'emmerde, bah en fait, je vais tout simplement y jouer.
Qui est la seule Game Boy jouable parce qu'il y a un rétro éclairage.
Exactement, ouais. Parce que j'avais acheté l'autre Game Boy Advance aussi, la première. J'étais trop content et puis quand je l'ai allumé, bah non, en fait, on ne voit rien tout simplement. Ouais. Donc c'était c'est vraiment dommage à l'époque. Hein. Ouais.
Et du coup, d'autres, il y avait évidemment Morrowind, Unreal Tournament.
Ouais, Morrowind, je l'aurais eu direct, Morrowind. Je sais. Voilà, quoi.
En plus, le main theme, il y avait Unreal Tournament avec le main theme. Alors, Sonic the Hedgehog, évidemment, Castlevania, un des premiers, et Tekken 3, et Alex and the Kids, The Mirror World, et évidemment, okay, le dernier, ouais, c'était Monkey Island.
Oh là là, on finissait sur Monkey Island,
et oui,
arrête.
Et en plus,
oh là
ce morceau-là, il est culte, et je voulais justement rebondir là-dessus. Et bah, tant pis, ça sera pour une...
pour le générique de fin, tiens, je vais le mettre pour le générique de fin. Tiens, on repart...
Qu'est-ce qu'on va écouter très rapidement? On va écouter deux sons de Jet Set Radio Futur, alors qui est composé par IDK ou DTK, je ne sais plus. J'ai tout oublié.
Il est composé par quelqu'un, en tout cas.
Après, on écoute... Est-ce que dans les 90, il y a eu une grosse période de jungle dans le jeu vidéo?
Oui,
c'est vrai.
Un morceau de Ridge Racer, et j'en profite, qui a été samplé par... Bien sûr, JPEG Mafia.
JPEG Mafia, voilà, c'est ton fil rouge.
Bien sûr, on a un morceau de Street Fighter 3, et après, on a un morceau qui est peut-être d'un des seuls jeux où la BO est plus connue que le jeu lui-même, la BO d'Hotline Miami.
Oui.
Donc, plutôt que mettre un des morceaux les plus connus, j'ai pris un morceau un peu rock psychédélique pour finir ce petit medley.
Vous êtes toujours dans la cour des miracles sur Radio PFM 99.9, spécial jeux vidéo.
Radio PFM 99.9.
Yeah. but too tame for him.
What is love? What is free love? What is free boy? What is boy? What is girl? What is free girl? What is love is free. Love is free. Love is free. Love is free.
Ready to kick some ass?
PFM.
PFM 99.9 à Arras dans Schnorr, salut à vous.
PFM.
PFM.
La ferraille.
99.9 Radio PFM.
Radio PFM 99.9.
La Cour des Miracles, c'est évidemment sur les ondes, sur le 99.9, mais c'est aussi sur internet, sur le www.radiopfm.com. Il y a aussi le Facebook de l'émission. Tiens, merci pour ton son, Charlie. C'était ta dernière, toi, de la saison. Voilà, donc on est sur une spéciale. On était sur une spéciale jeux vidéo aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous tous. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle saison, hein, bien évidemment. Il y aura des rediffs durant l'été et puis tout ça.
On
et puis,
vous bah, laissera
peut-être...
pas.
Non, on vous laissera pas, bien évidemment. Donc voilà, donc ouais, pas mal de petits sons là à la fin. Jet Set Radio qui avait sur Dreamcast.
C'est le même jeu.
Jet Set Radio Future qui avait sur Xbox aussi également.
Ouais, sur Xbox, ouais, elle avait été. Pas remasterisé mais porté ouais sur ce truc là. On refera
Crazy,
tiens
Crazy Driver Taxi aussi sur
Taxi Driver ouais.
Non pas du tout. Crazy Taxi.
On refera évidemment des émissions sur les jeux vidéo parce que
seulement si vous laissez des commentaires.
C'est vrai, Skyblog va mourir d'ailleurs, j'ai vu.
Exactement, ouais. Alors Skyblog qui existait depuis des années va mourir d'ici deux mois pour ceux qui nous écoutent.
Sauvegardez vos photos, sauvegardez vos fichiers, vos dossiers là.
Exactement,
ouais. De reprendre.
Bah ouais. Donc voilà, ouais, donc Skyblog qui finit, etc. Mais pour nous c'est pas fini, hein, évidemment, pour la Cour des Miracles. On se retrouvera bien assez tôt. Donc attends, ok, je fais n'importe quoi avec le son, voilà, c'est pas grave.
C'est la dernière, on est un peu fatigué.
Voilà. Tiens, je voulais mettre Monkey Island pour finir cette émission. Monkey Island par Ron Gilbert qui a inventé tout simplement le renouveau du jeu d'aventure, hein, point and click. J'adore, hein, tout simplement. Donc,
j'avoue, voilà. Moi aussi.
Si vous voulez faire partie de la team Radio PFM et de la team Cour des Miracles, c'est très très simple, vous envoyez un mail sur le pfm@radiopfm.com ou sinon vous nous appelez au 03 21 50 99 99 ou sinon vous venez physiquement IRL dans nos locaux qui sont 11 places de l'ancien rivage à quartier Méolence.
Sinon il y a un Battle Royale tous les mercredis sur la place Ipswich.
Ouais, j'y suis pas trop moi à ce Battle Royale là. À ce moment là moi j'ai ma chaîne Twitch, tu sais, donc j'ai pas trop le temps d'être dedans quoi. Donc voilà. En attendant la prochaine émission, moi je vous dis chérissez votre famille, vos amis et tout ce qui vous entoure. On se revoit bientôt les gars. On essaye aussi de refaire une spéciale jeu vidéo parce que en fait on a tellement de choses à dire sur le jeu vidéo que là on s'est fait avoir par le temps.
Oui.
Ouais, il n'y a pas eu mon dernier son, je suis dégoûté.
Ouais, ça arrive.
Même pas un dernier mot.
Non. Allez, bisous.
Bisous.
PFM.